d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. Eh bien, c'est aujourd'hui une émission exceptionnelle puisque du fait du confinement, elle se passe grâce à Skype. C'est pas pour faire de la pub, mais donc en visioconférence. Et nous avons fait appel à mon camarade Bob, le secret de fabrication, pour renforcer l'équipe. Bonsoir Gilles. Bonsoir Bob.
Ouais, je suis là.
Ok, et bonsoir Claude qui est à la technique et qui enregistre cette émission. Thème de l'émission à mode d'emploi oblige, donc on va commencer par les les chiffres du chômage, puisque comme vous le savez, selon l'INSEE, il y a aujourd'hui 2 043 000 chômeurs. Au sens du Bureau international du travail, ça représente 7% de la population active. Alors vous me direz, mais c'est quand même un peu étrange puisque le confinement, alors c'est les chiffres évidemment du deuxième trimestre hein, qui vont d'avril à juin, et donc vous me direz c'est quand même un peu étrange en plein confinement d'avoir juste 2,43 millions. Alors du coup on est obligé d'aller faire un tout petit tour du côté de Pôle emploi pour voir ce que les statistiques administratives hein, du chômage, ce qu'ils en disent. Alors un petit rappel, au total, il y a 5 783 000 chômeurs inscrits à Pôle emploi et tenus de rechercher un emploi. Si on compte les personnes qui ne sont pas tenues de rechercher un emploi, c'est-à-dire celles qui sont en formation, en emploi aidé, il faut compter 600 000 personnes de plus. Et donc là, on passe largement la barre des 6 millions de personnes inscrites. Ça représente 21% de la population active qui aujourd'hui est inscrit à Pôle emploi. Je veux dire un peu le nombre de personnes. Et là-dessus, on a 3 600 000 personnes qui sont en catégorie A, c'est-à-dire en chômage total. Donc évidemment, le chiffre a bondi de 9,5% hein, sur un an. Mais vous voyez bien qu'on était déjà dans cette situation avant la période du confinement. Hein. Et ça représente 12,5% de la population active. Voilà, donc on est évidemment bien bien loin des 7% de l'INSEE. Alors, juste une remarque hein, sur le chiffre de l'INSEE. En fait, il faut regarder l'autre catégorie, celle dont personne ne parle et qui n'est pas en gros hein, sur le site de l'INSEE. C'est bien le halo du chômage. Donc le halo du chômage, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui veulent travailler mais qui n'ont pas fait d'acte de recherche positive au cours des quatre dernières semaines, mais qui déclarent vouloir travailler. Et donc, ils sont constatés comme des inactifs. Ils sont même pas dans la population active, d'ailleurs. Alors, évidemment, le halo du chômage a explosé au cours de la période du confinement. Il s'établit aujourd'hui à 2,5 millions et demi de personnes. Et la période du confinement représente une augmentation de 700 000 personnes en plus. Donc, il faut bien imaginer qu'avant la période du confinement, on est déjà sur un halo du chômage qui est extrêmement important. Alors, c'est historique, en fait. Le nombre de personnes qui sont dans le halo du chômage, d'ailleurs, qui souhaiteraient travailler, mais qui n'en ont pas la possibilité ou qui n'ont pas fait de démarche pour les 4 dernières semaines, est plus important que le nombre de chômeurs en recherche d'emploi. Et on comprend pourquoi, puisque la période du confinement fait qu'effectivement, les gens ne sont plus en capacité de rechercher un emploi. Alors, si on cumule les deux, ça représente 15,5 millions de personnes. Ça représente 15% de la population active, 15,5% de la population active, hein, chômeurs comptés au sens du BIT, l'INSEE plus halo du chômage. Et il y a à noter quand même que la catégorie du halo du chômage est encore plus importante que les, si vous voulez, que ce qui manque dans les statistiques de l'INSEE au regard de Pôle emploi. Je m'explique. En fait, la catégorie du halo du chômage, ou même juste le nombre de chômeurs comptés au sens du BIT selon l'INSEE, ne compte aussi les personnes qui ne sont pas inscrites à Pôle emploi. Alors si vous faites un petit calcul simple, hein, grosso modo, entre les chômeurs comptés au sens du BIT et les chômeurs de Pôle emploi, il manque 1,5 million de personnes, grosso modo. Hein. Et ben, le halo du chômage, lui, donc, en comptant les personnes qui ne sont pas inscrites à Pôle emploi, on rajoute encore 1 million supplémentaire de chômeurs. Et donc, on est réellement dans une situation où l'inactivité subie, on parlait avant d'emploi subi, d'emploi à temps partiel subi, l'inactivité subie atteint des tels sommets qu'en fait, la définition du bureau international devient complètement inefficace et ne reflète absolument pas à la fois l'inactivité des personnes et la demande, la recherche de l'emploi en personne. Et donc, bon, voilà, il paraît clair aujourd'hui que la définition du bureau international, telle qu'elle a été conçue à l'origine, non seulement n'est plus adaptée aujourd'hui à la réalité du marché du travail, mais devient une fumisterie. Et donc, Bob, si tu as une remarque par rapport à ces définitions en fait, qui ont été établies de longue date, hein, donc à Genève, en fait, puisque le Bureau international du travail est un organisme non gouvernemental lié aux conventions internationales. Bob?
Ouais, tout à fait. Le Bureau international du travail, c'est un organisme international qui est de nature paritaire, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle représente la réunion, la conférence des syndicats patronaux et salariés. Hein? Donc, ça veut dire que, en fait, les bagarres sur les normes vont être plus ou moins poursuivies par un camp. Et sur le chômage, ceux qui ont le plus intérêt à fixer les normes, donc ceux qui sont le plus, comment on va dire, proactifs dans les discussions, c'est clairement la partie patronale, en fait.
Oui, parce qu'en raison de ce qu'elle a à payer dans certains pays, hein,
c'est ça.
Pour le chômage, en fait.
D'une part, et d'autre part, parce que son modèle économique fonctionne sur une définition ultralibérale du marché du travail et de son pendant dans le chômage. Et que donc, ils ont tout intérêt à être les fournisseurs de chiffres qui vérifient cette hypothèse.
Oui, cette théorie. Oui, tout à fait. Alors, pour rappeler, hein, c'est vrai que les théories sur le chômage libéral disent simplement que quand il n'y a pas une offre d'emploi suffisante, c'est-à-dire en fait, c'est un mécanisme d'offre et de la demande hein, qui ne prend pas du tout en compte les besoins des personnes. Donc, quand il n'y a pas d'offre d'emploi suffisante ou avec une rémunération suffisante, eh ben, les gens font comme dans tous les autres marchés, ils se retirent en fait, du marché du travail, et peu importe leurs besoins réels de financement. Et donc, ils n'adhèrent plus, en fait, ils ne recherchent plus un emploi, en fait. Et donc, effectivement, les définitions telles qu'elle était pondue et telles qu'elle est appliquée reflètent exactement ça, c'est-à-dire que plus vous offrez des emplois dégradés aux gens, donc par exemple aux États-Unis, hein, pour prendre juste cet exemple-là, où 90% des nouveaux contrats sont des contrats dits atypiques, plus les gens, en fait, il devient effectivement moins rentable de travailler que d'être dans une situation ou d'inactivité ou aller chercher des emplois qui ne sont pas des emplois salariés, en fait. Et de fait, quand la croissance revient, à ce moment-là, le taux de chômage, et qu'il y a plus d'emplois disponibles, hein, le taux de chômage, on risque pas de faire en sorte que le taux de chômage remonte. Parce que tout d'un coup, les gens qui étaient inactifs reviennent sur le marché du travail. Et donc, c'est cette théorie que la définition du Bureau international du travail vérifie. Et elle le vérifie à tel point que lorsque, par exemple, en Allemagne, on a un SMIC, on impose un SMIC légal, tout d'un coup, le taux de chômage augmente, il y a plus de gens qui recherchent du chômage parce que la population augmente. Donc effectivement, en fait, c'est une théorie où en France, jusqu'en 2007, en fait, avant on l'appliquait de façon modérée, c'est-à-dire que on considérait qu'être inscrit à Pôle emploi était une recherche positive d'emploi. Et donc de fait, toutes les personnes qui étaient inscrites à Pôle emploi en catégorie A se retrouvaient dans les statistiques de l'INSEE. Aujourd'hui, on a pris prétexte en fait des pratiques de l'administration qui radiaient des personnes à Pôle emploi parce qu'elles ne faisaient pas acte positif de recherche d'emploi. Et donc, on a considéré qu'effectivement, être à Pôle emploi n'était plus en soi une recherche d'emploi. Sauf que là, on voit bien qu'en fait, il y a un écart qui est tellement important entre les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi et qui se considèrent comme au chômage et, soi-disant, des statistiques où les gens ne sont pas en capacité de rechercher un emploi, que cette définition ne veut plus rien dire et qu'on a surtout l'impression qu'elle sert à la communication gouvernementale, avant tout. Hein.
On m'a dit tes idées ne sont plus à la mode. Quand on veut gouverner, ce n'est pas si commode. Il faut évidemment s'adapter aux folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81.
Oui, bonsoir à tous et à tous, rebonsoir. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. Je suis avec Bob de l'équipe Concrète Fabrication et Gilles et Claude, bien sûr, à la technique. Alors, on était sur les chiffres du Bureau international du travail. Bob, je crois qu'il y a peut-être un complément à ajouter sur la question.
Oui, bah oui, parce qu'en fait... Le modèle de marché du travail suppose une fluidité parfaite, en fait. Comme si c'était indifférent le coût horaire de l'heure, il y aurait forcément un ajustement sur le marché. C'est ça la logique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de baisser, le prix trouve acheteur. Voilà, il trouve vendeur aussi au prix où c'est donné. Mais ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Il y a un coût pour aller travailler. On ne peut pas se permettre d'aller travailler pour des prix en dessous d'un certain niveau.
Exactement.
Et ça, c'est là où la vraie vie rattrape la théorie ultralibérale.
Ouais. Alors justement, écoute...
Les chiffres servent à dissimuler le fait que ce modèle ne marche pas. Voilà, tout simplement.
Alors justement, écoute, ça tombe très bien puisque on a un exemple concret d'application, là, n'est-ce pas, avec les chauffeurs de Deliveroo et de... et d'Uber Eats, hein, qui ont appelé à Toulouse à la grève vendredi dernier. Et là, on a un exemple parfait parce que vous savez que les chauffeurs d'Uber Eats et de Deliveroo, eux, ne sont pas salariés, c'est des auto-entrepreneurs. Et donc, mais des auto-entrepreneurs qui sont affiliés en fait à une plateforme d'appel. Tout le monde connaît un peu le principe aujourd'hui, sauf qu'évidemment, ils n'ont aucune protection sociale et ils n'ont pas non plus de ce qu'on appelle en France le SMIC garanti. Ils sont réellement dans un marché libre, un marché du travail libre et dans une concurrence non faussée, pourrait-on dire. Et donc, quel est l'effet sur eux du confinement, enfin du soi-disant confinement? C'est que finalement, les prix, leur rémunération est fixée par leur employeur et est totalement libre et appelée en fait à fluctuer, hein, en fonction de l'offre et de la demande. Et ils ont vu leur salaire, entre guillemets, alors c'est pas leur salaire, leur revenu baisser en fait de 15 euros l'heure avant le confinement à 9 euros, juste à la période du confinement. Et en fait, la rémunération des livraisons donc ne cesse de baisser, hein, constate Johan Taillandier, qui est le secrétaire général du syndicat des livreurs ubérisés toulousains. Et il dit aussi qu'en fait, c'est une volonté en fait de la direction, en recrutant énormément de livreurs, profitant en fait de la crise et donc du chômage qui augmente, donc en recrutant énormément de livreurs pour faire baisser les tarifs. Ce qui évidemment est de bon sens, et sachant qu'en fait leurs employeurs ne sont soumis à aucune obligation de conserver les livreurs, et ben, du jour au lendemain, ils peuvent tout à fait résilier leur collaboration, et c'est ce qui se produit, c'est-à-dire que quand il y a un peu trop de revendications, ben, on reçoit un mail, et tout d'un coup, de résiliation de la plateforme, et tout d'un coup, ils n'ont plus rien pour leur. Ils n'ont plus de commandes, en fait. Voilà, donc du coup, ces gens, hein, il faut préciser que sur leur salaire, ces gens payent leur propre protection sociale. Et qu'en plus, ils n'ont pas droit, par exemple, au chômage, c'est-à-dire quand tout s'arrête. Voilà. Donc là, on a vraiment l'exemple d'un espèce de retour d'un sous-prolétariat payé à la tâche, sans aucune garantie et dans une totale asymétrie, hein, par rapport à l'employeur. Donc, évidemment, hein, donc Johan Taillandet rappelle, hein, que le degré de subordination entre les plateformes et les livreurs est à son maximum, c'est-à-dire que plus que jamais, on est dépendant en fait de l'employeur pour travailler. C'est ce qui se passe aujourd'hui presque partout dans le marché du travail. Et qu'en outre, un arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2020 a requalifié le statut d'un chauffeur Uber indépendant en salarié. Et donc, s'il a été clairement établi que nous sommes des patrons fictifs pieds et mains liés, nous réclamons au gouvernement davantage de protection et donc une réglementation qui pourrait protéger ses salariés. Et donc là, on a un exemple de ce que permet le marché libre. Et donc, c'est que finalement, jusqu'à un certain degré où le salaire est vendant, donc là, vous voyez, c'est 9 euros de l'heure. Hein, donc c'est quand même pas bézef. Et en plus, il faut payer une charge sociale. à un moment, il n'est plus du tout rentable de travailler, ou il n'y a tout simplement plus d'emplois disponibles, comme le disait. Donc là, on a vraiment on peut dire que c'est un retour au travail à la tâche du 19e siècle. Effectivement, alors c'est la crise, comme vous l'avez constaté. Or, un plan de relance, des mesures de relance avaient été décidées, on s'en souvient, juste lors du premier confinement. Puis, avec le deuxième confinement, il y a de nouveau un projet de loi rectificatif des finances. Or, France Insoumise a d'autres projets et voit le plan de relance différemment, puisqu'elle veut augmenter le plan de relance à 132 milliards d'euros. Alors Gilles, tu as suivi l'affaire, de quoi s'agit-il?
J'ai suivi un petit peu l'affaire, effectivement. Donc, comme tu viens de le dire, il y a un plan de relance, donc une sorte de contre-projet à 132 milliards dès 2021, qu'ont proposé les députés France Insoumise, donc qui porte sur 300 000 emplois jeunes, une extension du RSA pour les 18-25 ans. Donc, ils ont présenté mardi dernier un contre-projet au plan de relance du gouvernement avec une batterie de mesures du même coût, donc 132 milliards pour le coup. Voilà, ce contre-budget, c'est notre plan de finances rectificatif en opposition à celui du gouvernement, a expliqué le député Éric Coquerel, qui a descendu en flammes la politique économique et sanitaire de l'exécutif. D'accord ? Sans surprise, le projet des députés insoumis est centré sur une politique économique de la demande par opposition à la politique de l'offre promue par le gouvernement dans son plan de relance estimé à 100 milliards d'euros. OK. Donc, juste pour les auditeurs, pour ceux qui le savent déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas encore, une politique de la demande en économie est une politique d'inspiration keynésienne menée par l'État visant à augmenter la demande en augmentant les investissements publics et la consommation du secteur public. D'accord ? Alors qu'à l'inverse, l'offre, c'est plutôt baisser les impôts des entreprises, et donc c'est plutôt une politique libérale pour ce qui concerne l'offre. Voilà. Alors, je continue sur ma lancée. Voilà. Attendez, excusez-moi. Alors, d'accord. Donc, on met de l'argent dans les entreprises en espérant qu'elles vont sauvegarder l'emploi sans regarder si elles versent des dividendes, licencient tout en faisant des profits, a dénoncé encore le député de Seine-Saint-Denis. C'est effectivement, l'État a donné de l'argent à tout va sans vérifier dans le cas des entreprises si l'argent va au bon endroit, si vous voulez. C'est-à-dire que l'argent qu'il donne aux entreprises peut participer à renflouer les poches de ceux qui ont déjà beaucoup d'argent et pas du tout aux ouvriers, aux salariés qui, eux, bénéficient peut-être d'une augmentation très, très limitée. Voilà. Donc ça, ils le dénoncent. C'est pour ça qu'ils veulent faire en sorte que l'argent aille au bon endroit. Donc, justement, en faisant l'inverse du gouvernement, en réintroduisant de l'impôt sur la fortune, une taxe sur les dividendes, sur les transactions financières, sur les actions et les autres produits dérivés, suppression des niches fiscales. Donc toutes ces mesures sont des mesures déjà qui ont été promues en fait depuis peut-être même des générations par ce qu'on pourrait appeler la gauche. Donc c'est effectivement prendre aux riches pour redonner aux pauvres, le côté un peu Robin des Bois si vous voulez. C'est un projet qui pourrait a priori penser que c'est un peu des poètes ou des rêveurs qui considèrent qu'on peut en prendre de l'argent comme ça et puis le reverser. Mais ça se défend parce que si on arrive à trouver 100 milliards pour donner aux entreprises les plus dominantes sur le marché, on peut trouver 132 milliards pour donner aux plus pauvres, à ceux qui ont le moins, si vous voyez. Donc c'est le but, il est là. Donc c'est effectivement un contre-projet des insoumis qui malheureusement, je pense, ne portera pas parce qu'il faudra qu'il soit voté et je crois qu'ils sont quand même en minorité dans les assemblées. Donc voilà. Donc c'est un beau projet qu'il faudra certainement défendre dans les mois qui viennent. Voilà.
Oui, je voudrais ajouter qu'on a vu pendant le premier confinement, à la fin du premier confinement, on a dit mais regardez, finalement, les Français ont épargné dans des proportions astronomiques. Donc c'était 8 fois par rapport à l'épargne habituelle. Et donc on a bien un problème. Si on a un problème, c'est vis-à-vis des entreprises. Alors en fait, c'est pas exact parce que finalement, il y a une telle inégalité de revenus en France aujourd'hui que les gens qui ont été victimes de la crise, donc tous les intérimaires, les gens qui ne pouvaient pas bénéficier du chômage partiel, eux, n'ont certainement pas épargné. Et les ménages les plus modestes n'ont pas pu épargner. C'est un peu logique, hein, avec un SMIC, vous épargnez pas. Et donc, du coup, le soutien, en fait, à la demande, justement, des gens qui sont le plus touchés par la crise, c'est-à-dire au maintien de leurs revenus, en fait, paraît indispensable, à la fois humainement, pour tout simplement pour que les personnes concernées continuent à vivre, mais surtout est aussi indispensable pour, à mon avis, hein, pour la suite, pour l'après-confinement et pour la crise qui s'annonce. Voilà, sachant que en fait on peut effectivement, comme le dit la France Insoumise, faire les deux en même temps, c'est-à-dire à la fois soutenir les entreprises, soutenir les ménages, et quand on dit soutenir les entreprises, c'est aussi soutenir les petits entrepreneurs, les bars, oui. Vous voyez, les gens qui sont eux pour le coup qui seront vraiment victimes du confinement.
Oui, mais juste, si tu me permets une réaction, Ludo, juste une chose, c'est que, par exemple, les promesses faites par Macron et son gouvernement sur le fait de donner de l'argent dans le cadre effectivement des baisses des revenus et puis de la possibilité pour les petits indépendants de vendre leurs produits, si tu veux, n'est pas vraiment entre la promesse et les faits, si tu veux, il y a une grande différence. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de rencontrer dans la rue tout bêtement quelqu'un qui m'a parlé, parce qu'on buvait un café tout bêtement, hein, qui m'a parlé qu'il était entrepreneur et qu'il n'avait absolument rien reçu de gouvernement depuis le début du confinement, c'est-à-dire en mars 2020. Il était à son compte, il avait plus d'argent sur son compte, il avait du mal à payer son loyer parce qu'il avait plus il avait plus d'argent pour le payer, pour le coup, et que les promesses du gouvernement comme quoi ils allaient être aidés ou que les loyers allaient être reportés pour après le confinement, tout ça c'est pour lui du mensonge, puisque lui il est à se demander s'il va pas être obligé de faire la manche pour pouvoir payer son loyer, si tu veux. Donc, entre ce que le gouvernement dit, qu'il donne de l'argent aux indépendants et aux petits, ceux qui sont à leur compte, mais la vérité, c'est qu'en fait, ils n'ont rien. Et en fait, quand il faut faire la demande au gouvernement en disant « je suis indépendant et j'ai besoin qu'on m'aide », les documents à remplir sont tellement nombreux et tellement difficiles à remplir qu'on est déjà découragé. Voilà. Donc, un autre exemple, dans le paramédical, je vais juste vous donner cet exemple-là. Dans le paramédical, pour obtenir tout ce qui est kiné, comment les gens qui s'occupent orthophonie, etc., etc., les gens qui n'ont une baisse de revenus devraient pouvoir bénéficier d'une aide de l'État. Or, les documents à remplir pour pouvoir bénéficier de cette aide est tellement compliqué que ils abandonnent, si tu veux. Donc les petites entreprises en question abandonnent. Voilà. Donc ils ont uniquement les affaires qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire qu'ils continuent à travailler, mais avec un rendement moindre puisqu'ils c'est le confinement. Donc ils continuent à travailler, mais à 50% par exemple. Mmh. Et donc ils n'ont pas les 50% qu'ils avaient avant, c'est parce que l'État ne peut pas leur donner puisqu'ils n'ont pas rempli les documents, tu vois. Donc c'est le chat qui se mord la queue. C'est très compliqué. Donc il y a une promesse de l'État qui dit on a fait ça, on a fait ça, mais la vérité c'est qu'ils n'ont rien fait, et c'est ce que dénonce dans le document que je vous ai lu tout à l'heure sur les insoumis qui proposent une contre-réforme. C'est bien ça qui sont, il est question de ça, il est question que les promesses ne sont pas tenues, tout simplement.
Bob, tu voulais réagir?
Ouais. Ben en fait il faut c'est pour rebondir sur le côté un peu keynésien de ta lecture du plan de relance insoumis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste, on ne taxe pas pour couvrir des plans d'investissement de l'État. C'est pas, je pense que le fisc, il faut distinguer la question fiscale, en fait, du plan de relance. La question fiscale, c'est une mesure de justice sociale quand les inégalités s'accroissent au-delà d'une certaine limite. Et donc, elles valent en soi. Il n'y a pas besoin de dire, je dirais qu'il faut défendre ce truc-là de deux manières. Il n'y a pas besoin de dire on a besoin de trouver de l'argent pour mettre dans soit du plan d'investissement public, soit de la fonction publique. Non, il faut dire si des gens gagnent tellement d'argent alors que d'autres s'appauvrissent, c'est qu'ils tirent un bénéfice indu du système. Et que donc, c'est légitime de les taxer pour mettre la main sur ce bénéfice indu, parce que c'est le système qui le crée, ce bénéfice. Et il est logique que, en fait, on remette le frein moteur sur le moteur. Parce qu'en réalité, les capitalistes ont tendance à vouloir dissocier le moteur et à le faire tourner à vide, sans bénéfice pour la société. D'accord ? Et donc, est-ce qu'à éviter le fisc, éviter que ça revienne, en fait ? Et donc, je dirais qu'on a plutôt intérêt, plutôt qu'avoir un moteur qui tourne à plein régime et qui enclenche rien, d'avoir un impôt fort, que le moteur tourne à bas régime, donc que l'économie ne s'emballe pas, mais qu'elle soit beaucoup plus redistribuée. C'est à ça que sert le fisc. Et avec ça, on peut imaginer, effectivement, combler tous les déficits de sécurité sociale, d'une part, et remettre en place une fonction publique qui assure gratuitement un maximum de besoins, d'autre part.
Oui. Et je voudrais ajouter que la pseudo-baisse de rentabilité de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire quand la taxation est trop élevée, alors l'impôt devient moins rentable, en fait, n'est pas une loi scientifique. Elle a été pondue sur un bout de papier par des conseillers économiques de Reagan au moment où il l'a appliquée, mais enfin, elle n'a jamais été établie. Et en outre, hein, au départ, la taxation maximale, enfin sur le revenu marginal, hein, comme on dit, c'est-à-dire sur les plus hauts revenus, lorsqu'elle a été mise en place aux États-Unis par des Keynésiens, il s'agissait de permettre en fait que en mettant un impôt confiscatoire, il s'agissait que les entreprises ou que les bénéficiaires de ces revenus les réinvestissent automatiquement dans l'économie, puisque ça servait à rien de les prendre, puisque de toute façon ils étaient confisqués. Et là, on voit bien quand même qu'il y a des espèces de distorsions. J'allais dire des distorsions de concurrence, mais c'est pas le terme. C'est que, par exemple, dans le marché de l'immobilier, on s'est aperçu qu'il y avait des surprofits par rapport à tous les restes d'activités. Et qu'en l'occurrence, c'est pas le petit propriétaire, ou c'est même pas le petit propriétaire de 10 logements, parce que ça existe, c'est ça, qui peut mettre en location ces 10 logements, c'est les promoteurs immobiliers, en fait, hein, qui font construire en masse, en fait, ou rachètent un quartier, réhabilitent tout un quartier, dont les profits sont tels qu'effectivement, une importante taxation n'est pas enfin, vis-à-vis du profit qu'ils tirent du déséquilibre de logements par rapport enfin, en tout cas par rapport au marché, bah, du coup ça se justifie pleinement qu'ils puissent contribuer au reste de la société en étant taxés de façon importante. Voilà. Et alors oui, concernant les petits les démarches en fait pour les aides, moi je reconnais qu'en fait on est obligé d'avoir un comptable, d'avoir un peu des notions de comptabilité. Alors quand vous me direz, quand vous êtes entrepreneur, mais c'est pas systématique, hein, pour pouvoir remplir les demandes, et qu'en plus il y a du retard, hein, par rapport. C'est-à-dire que là les demandes pour les petits du mois de juillet ou de septembre, en fait, juillet ou septembre, ont à peine été, un mois a été traité, et puis bah, les impôts traînent les pieds, en fait, hein, pour combler donc il y a au moins déjà 2-3 mois de retard, en fait.
Je voulais juste rajouter quelques mots sur le confinement. Parce que, bon, en dehors du plan de relance des 100 milliards, là, il y a quand même, ils font tout à l'envers. Par exemple, ils permettent à des grandes entreprises comme le Monoprix, la Fnac, etc., d'ouvrir, alors qu'il y a des dizaines de personnes qui vont s'y rendre, et ils n'autorisent pas à des petites librairies ou des petits magasins de commerce où il y a 2 personnes au maximum, tellement c'est petit que voilà. Ça, je trouve que c'est presque drôle, tellement c'est n'importe quoi. Et je pense que là, le confinement. Ça a déjà été dit avant. Le confinement, là, pour le coup, c'est complètement raté. C'est même raté au niveau des lycées, des collèges et tout ça, parce qu'en fait, des classes, on a les parents d'élèves et puis les enseignants ont demandé des classes à demi effectif, et on reste encore sur des classes de 35. Donc, Il y a, c'est n'importe quoi. Comme c'est n'importe quoi, d'ailleurs, on en parlera peut-être plus tard, la façon dont se déroulent les élections américaines. Mais voilà, donc on est dans du n'importe quoi tout le temps et c'est vraiment fatigant à la force. Donc voilà, le gouvernement a fait un petit peu n'importe quoi dans le sens où les 100 milliards pour la relance, effectivement, peuvent aider. C'est certain que c'est une bonne chose. Même si ça suffit pas, mais que par exemple, par rapport à la politique de commerciale de la France, par exemple en interne, hein, le fait d'ouvrir, de laisser ouvert des grosses entreprises comme la Fnac, les Monoprix, les Uniprix, etc., ou les Super U, etc., où il y a des dizaines de personnes qui vont se rendre pour faire leurs courses, et d'empêcher des petits commerces où il y a que 3-4 personnes qui peuvent maximum être dans le magasin parce que c'est petit, et que ceux-là sont fermés, je trouve ça. Ça va à l'envers, quoi. C'est encore du n'importe quoi. Même chose pour tout ce qui concerne l'enseignement, c'est-à-dire les lycées, les collèges et les maternelles, etc. Ne pas autoriser les enseignants à faire des demi-classes, soit 15 par classe, et non pas 35, c'est n'importe quoi aussi. Donc, s'ils veulent vraiment lutter contre l'épidémie, il faut vraiment qu'ils changent leur politique de confinement, et que, ou bien c'est un confinement total pour tout le monde, ne serait-ce que sur 10 jours ou 15 jours, ou bien on laisse les petits commerces s'ouvrir et puis on ferme les gros commerces qui, eux, génèrent énormément de personnel et de personnes, et là où le virus ira beaucoup plus vite. Voilà.
Merci Gilles. Alors, on va peut-être passer à un autre sujet, si le sujet est clos. Et donc, je vous rappelle, hein, parce que c'est impératif de le rappeler, donc aujourd'hui, en principe, a commencé l'examen de la loi sur la sécurité globale. Donc, on en a peu parlé, mais en fait, cette loi prend son origine en fait dans le dernier confinement, lorsqu'on s'est aperçu que des drones étaient utilisés par les forces de l'ordre en fait pour non seulement surveiller et filmer la réalité du confinement, y compris hein, dans des espaces privés tels que les jardins. Mais en plus, ordonner vocalement aux personnes de rentrer chez eux, donc c'est des exemples qui se sont produits, et donc les gens ont un peu halluciné en se demandant dans quelle société ils vivaient, si 1984 n'était pas arrivé hein, en live. Et donc, à la suite de ça, vous pensez bien qu'il y a eu des recours, et que le gouvernement a rétropédalé, et donc il a demandé à un de ses députés, Marcheur, de pondre une loi. Et vous pensez bien que la personne a été la mieux placée. Et pourquoi ? Parce que c'est un ancien commissaire du RAID qui est devenu député. Donc ils ont vous voyez, des références. Et donc on pouvait évidemment supposer qu'avec un tel degré d'expertise, on ait une loi équilibrée qui respecte les libertés publiques. Hein, et puis l'équilibre hein, entre le droit et la sécurité. Et donc on n'est pas déçu puisque ça y est, le projet de loi donc, a été sorti. Donc je rappelle, c'est une proposition hein, d'un député, et ensuite le gouvernement va un peu rajouter à sa sauce. Et donc, effectivement, alors on a toute une batterie de mesures qui fait dire aux spécialistes qu'on est rentré dans un contrôle de masse, hein, puisque désormais, donc évidemment, hein, les drones seront autorisés, mais il sera aussi autorisé les manifestations, l'exploitation. Donc, on pourra filmer effectivement ce qui était déjà le cas, hein, donc les manifestants, mais leur exploitation en direct au moment de la manifestation sera permise. C'est-à-dire qu'on pourra soumettre, par exemple, les images qu'on reçoit à la reconnaissance faciale et en informer directement les agents sur le terrain. Pour permettre une potentielle arrestation hein, des personnes qui manifestent en fait. Hein. Donc là, c'est très clairement une espèce d'entrave à la liberté de manifester puisque désormais, en fonction de vos activités éventuelles, ça peut être vos activités syndicales ou autres, si vous êtes identifié dans une manifestation, eh bien peut-être que ou si vous avez commis un délit quelconque en fait, vous pourrez être intercepté en train de manifester. Et puis il y a un autre aspect, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous savez, il y a un certain nombre de bavures qui ont été mis en, en évidence par, bah, par des vidéos en fait, hein, qui ont circulé, et notamment l'affaire Benalla par exemple, et ben là, vous aurez droit à 1 an d'emprisonnement en cas de diffusion de l'image du visage d'un policier ou d'un gendarme. 1 an d'emprisonnement. Hein. Alors, évidemment, les personnes, en fait, le rédacteur de la loi se couvre en expliquant que, évidemment, les journalistes pourront continuer à faire leur travail, qu'éventuellement ils peuvent filmer et que la loi ne sera pas appliquée dans ces cas-là. Mais c'est remarqué les avocats, il suffira à quelqu'un de poursuivre, en fait, et de laisser le juge décider si oui ou non ces images filmées les policiers dans ces circonstances étaient autorisées ou pas. En fin de compte, ça fonctionnera comme il y aura un effet de censure, c'est-à-dire que les journalistes qui filmeront et qui feront état de leur des vidéos qu'ils ont filmées en public pourront être systématiquement poursuivis. Donc on a une loi qui est parfaitement équilibrée, si vous voulez, qui autorise les forces de l'ordre à filmer et à exploiter toutes les images qu'elles reçoivent en live, mais qui interdit évidemment aux manifestants ou aux simples citoyens d'en produire, elles, aucune. Et donc d'être capable de documenter des éventuelles bavures policières. Bienvenue en Macronie ou dans l'état sécuritaire global.
Oui, oui, ça c'est une possibilité. C'est une possibilité pour eux d'empêcher les donneurs d'alerte en fait et d'agir. Ça c'est la politique de la France depuis, on va dire, 1980. C'est effectivement la grande caméra, effectivement. Orwell avait raison en 1984, hein, enfin quand il écrit ce livre, je veux dire. Effectivement, on est sous tutelle d'un état policier depuis faut pas rêver, depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire voire plus. C'est-à-dire que avec l'intervention d'Internet, la capacité pour les grandes industries, comme comment on appelle ça, ceux qui détiennent les informations, quand tu vas sur Google, etc., et ceux qui détiennent les informations, leur capacité de donner ces informations effectivement aux États ou aux administrations, etc. Tout ça est bien connu de tout le monde. C'est-à-dire qu'on est effectivement on est dans un état où il y a de moins en moins de liberté. Actuellement, on est dans une sorte de dictature sanitaire, alors qui peuvent se justifier puisqu'effectivement il y a l'épidémie, mais les chiffres qu'ils nous donnent, est-ce qu'ils sont justes, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de contage, des cas ou des gens qui sont effectivement à l'hôpital, etc. Personne ne sait rien. La seule loi qui justifie leur position, c'est la loi de l'État. Personne ne peut venir dire le contraire. Qu'il y ait effectivement, dans le cadre des manifestations, la possibilité pour la police de photographier des visages et d'intervenir sur les personnes pour les arrêter, c'est pas d'hier non plus. Ce qui est par contre actuel et nouveau pour moi, parce que dans ce que tu viens de dire, c'est effectivement d'empêcher toute personne qui n'est pas journaliste de prendre des vidéos et des photos et éventuellement de les diffuser. Là, c'est une attaque carrément sur la liberté d'abord de manifester, mais de circuler et d'informer. Pour le coup, donc c'est absolument inique. Et effectivement, on est de plus en plus dans un État qui abuse de ses pouvoirs et qu'il faut remettre en cause. Et donc voilà.
Alors, toujours dans le même ordre d'idées, en fait, j'aimerais revenir sur l'intervention de la Ligue des droits de l'homme concernant en fait l'état d'urgence sanitaire. Donc, selon les revues de droit, hein, l'état d'urgence sanitaire, en fait, est une mesure d'ordre public, puisqu'en fait, elle vise à prendre toutes les mesures qui protègent effectivement les personnes, hein, donc en l'occurrence d'un virus, mais enfin, la loi d'urgence sanitaire reste une loi d'ordre public qui, en principe, n'a rien à voir avec le droit pénal. C'est-à-dire que le droit pénal est chargé, lui, d'instruire, en fait, d'instruire des délits, en fait, hein, à charge ou à décharge, de rechercher des coupables, et non pas de maintenir l'ordre public. Et pourtant, là, dit la LDH, on a une confusion des genres qui est tout à fait dommageable et qu'on a vu en fait lors du précédent confinement dans les quartiers populaires. Donc elle rappelle des points de droit simples, hein, Hein, c'est-à-dire que d'abord les forces de l'ordre ont eu plusieurs réactions disproportionnées dans le cadre de leur mission de contrôle de déplacement quotidien, et donc ils rappellent simplement que la police et la gendarmerie ne peuvent recourir à la force qu'en cas de légitime défense. Donc ça c'est l'article 122-5 du code pénal, et lorsque un danger actuel ou imminent nécessite un acte strictement proportionné destiné à protéger le bien ou la personne en danger. Donc bon, tout ça pour rappeler qu'en fait, en outre, les forces de l'ordre ne peuvent faire usage de leur arme qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Donc, pour les bavures, hein, lors des contrôles d'autorisation de sortie qu'on a observés par vidéo, hein, des cas de violence, bien entendu que là, les forces de l'ordre sont totalement hors des clous. Il précise qu'en matière contraventionnelle, donc la fameuse contravention, hein, ne permet pas de recourir à l'emploi de la force. C'est important à savoir. Les dispositions relatives à la déontologie des forces de l'ordre rappellent que le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi seulement lorsque c'est nécessaire et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Seule la rébellion, ce qui signifie faire de grands gestes ou se débattre, est un délit passible d'emprisonnement et peut conduire à placer la personne en garde à vue. Donc lorsque des personnes ont été placées en garde à vue suite à des absences d'autorisation de sortie qu'ils se sont auto-signées, c'est parfaitement un abus de pouvoir. Et donc tout comportement violent de certains agents par agression physique sans nécessité apparente, qu'on a vu encore une fois sur vidéo justement, parfois avec usage de gaz lacrymogène, peuvent s'avérer incompatibles avec le cadre légal et les règles déontologiques en vigueur. C'est la LDH, donc vous savez, ils emploient le conditionnel pour dire les choses que tout le monde a constatées. Concernant les gardes à vue, l'observateur ne peut que constater qu'il y a une instrumentalisation du délit de la mise en danger d'autrui. Alors qu'est-ce que la mise en danger d'autrui, hein? C'est que c'est le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi et les règlements. Or, en fait, la mise en danger d'autrui a été utilisée par les forces de l'ordre pendant précisément le confinement pour justifier le fait que si vous n'avez pas d'autorisation et que vous ne respectez pas le couvre-feu, vous mettez en danger la vie d'autrui. Donc, la Cour de cassation et la LDH rappellent, donc c'est une jurisprudence inconstante, que le simple non-respect d'une interdiction contraventionnelle ne permet pas de retenir l'infraction de mise en danger d'autrui. Et que s'il n'existe au surplus pas la démonstration d'un comportement particulier exposant autrui à un risque concret et immédiat de mort ou de blessure, or le fait de ne pas pouvoir présenter une attestation de déplacement dérogatoire ou de l'avoir mal rédigée ne serait considéré comme entraînant soit un risque concret et immédiat de mort. Voilà, le défaut d'attestation ne crée en lui-même aucun risque et le non-respect de règles générales de prudence ne permet pas de sanctionner pour mise en danger délibérée la vie d'autrui. Alors pourquoi c'est important? C'est qu'en fait le délit de mise en danger de la vie d'autrui permet en fait la garde à vue. Vous voyez, donc en utilisant ce fait-là, les policiers ont pu mettre en garde à vue toute personne qui leur un peu à la tête, qui leur paraissait suspect, en fait. Donc cette qualification délictuelle est abusive. Le placement en garde à vue s'avère tout autant illégal. Ok, c'est l'article 62 du code de procédure pénale. Parce qu'il n'y a pas de raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement tant qu'il n'y a pas de raison, hein. Et le fait de ne pas rédiger une infraction ne permet pas de supposer ce genre de choses. Et donc la LDH rappelle que les forces de l'ordre sont tenues de désobéir lorsqu'un ordre manifestement illégal leur est donné. C'est l'article 122-4 du code pénal. Sauf à commettre l'infraction de privation de liberté par personne dépositaire de l'autorité publique. C'est l'article 432-4 du code pénal. Le supérieur hiérarchique qui validerait ce détournement de procédure se rendrait en outre complice de ce délit. Voilà, voilà. Alors
c'est une question.
Je pourrais continuer. Voilà, mais dans un monde idéal où les forces de l'ordre respecteraient le droit, il n'y aurait pas de bavure en banlieue. Oui.
Ouais. T'es sûr que c'est pas le code de procédure pénale?
Je vais te dire ça. Là, c'est l'article. Non, c'est le code pénal puisque c'est les sanctions pénal. Liées à. Il y a aussi le code de procédure pénale. Non, mais là, c'est le code pénal. Hein.
D'accord.
Voilà, puisque c'est un ordre illégal et donc les policiers sont aussi concernés par le code pénal. Oui, oui, et pas seulement par le code de procédure pénale. Non, non, voilà. Mais et alors, y a aussi
je dis ça parce qu'il y a beaucoup de choses sur justement les droits et les devoirs des policiers dans le code de procédure pénale.
Bien sûr. Mais enfin, ceci dit, les policiers peuvent commettre un délit aussi. Hein. En l'occurrence, un ordre illégal est un délit et ça relève du code pénal. Hein. Bien sûr que concernant les contraventionnels, c'est le code de procédure pénale. Les premiers articles que j'ai cités viennent du code de procédure pénale, sauf la légitime défense, c'est le code pénal. Et le reste, c'est du code pénal. Alors, il y a aussi d'autres choses, hein, comme par exemple un nouveau délit qui fait qu'en cas de répétition de 4 contraventions dans le délai d'un mois, eh bien, vous êtes passible de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Voilà, donc ça, bon, ça, c'est un, vous voyez, c'est un, comment dire, c'est un truc qui est hors, qui n'était pas jusqu'à maintenant dans le code pénal. Or, ce que rappelle aussi la LDH, c'est qu'à terme, toutes les mesures d'exception finissent à un moment par se normaliser et par rentrer dans le droit commun. Et donc, qu'est-ce qui restera à la fin de l'état d'urgence de toutes ces dispositions-là? Et je pense qu'il sera important d'aller le vérifier, d'autant que on est arrivé à des espèces d'aberrations. Par exemple, hein, c'est un exemple qu'a donné Raphaël Kempf dans le monde diplomatique. Au moment du premier confinement, il s'agissait finalement, puisque les prisons étaient des centres où on pouvait effectivement être contaminé, peut-être qu'on pouvait libérer des personnes qui étaient à 2 mois hein, de la fin de leur peine, les libérer de façon anticipée. Donc d'un côté, on a fait cette démarche-là, mais d'un autre, en fait, on a maintenu en maison d'arrêt par ordonnance toutes les personnes qui étaient, par exemple, qui passaient en correctionnel ou qui passaient en assise. Et donc, on a prolongé leur détention préventive. Donc, ce qui a fait dire, en fin de compte, ben, c'est très simple. Par ordonnance, on libère des personnes qui sont condamnées, même au bout de leur peine, mais enfin, qui sont condamnées. Mais par contre, on maintient en détention des gens qui, jusqu'à preuve du contraire, et avant leur procès, sont présumés innocents. Et donc, ces aberrations cette utilisation en fait du droit pénal dans le cadre du confinement présente une multitude d'abus qu'il faut en principe étroitement surveiller.
Si je peux me permettre, je tenais juste à vous rappeler au Liban dans les années 85, les barbus interdisaient aux enfants de jouer et de rire. Voilà. Donc c'était une politique austère. Bon, on les connaît, ce sont des islamistes. Hein, à l'époque, ils existent toujours aujourd'hui. On connaît l'austérité économique en France et dans les pays européens et ailleurs. Aujourd'hui, maintenant, si tu me dis que dans le cadre effectivement du confinement, la police empêche ou interdit des passants de contester une amende ou d'être en colère ou d'avoir des expressions du visage menaçant, etc. Là, on est carrément, on passe un stade, on est carrément, là c'est plus du tout, on n'est plus du tout dans le même niveau, là, si tu veux. C'est-à-dire que là, les abus policiers, là, ça monte d'un cran, c'est-à-dire que là, avant, on était dans l'interdiction de manifester, dans l'interdiction, etc., de poster des images quand on n'était pas un journaliste, mais là, on est dans l'incapacité de s'exprimer et de défendre ses convictions en disant « Non, monsieur l'agent, j'ai mes papiers et j'ai mon attestation de sortie, vous n'avez pas à me mettre d'amende, etc. » Et si on montre effectivement une sorte de harangue ou de colère, on peut se faire arrêter parce qu'on met en danger. On est dans un autre monde, si tu veux. Hein, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc voilà, voilà. C'était juste. Alors,
je renvoie à l'émission sur la police qui a fait FPP à la suite du décès de Maurice Rajfus, qui sera bientôt disponible sur le site et qui explique par le menu hein, les abus dans la police française auxquels c'est toujours livré au cours du XXe siècle et du début du XXIe. Donc voilà, une excellente émission à la mémoire de Maurice Rajfus. Alors, peut-être qu'il ne nous reste pas non plus énormément de temps, donc peut-être qu'on va passer à la bonne nouvelle enfin de 2021 qui est donc la probable défaite de Donald Trump aux États-Unis. Donc on ne pouvait pas quand même faire cette émission sans en toucher un mot. Bob, je sais que comme tu es anglophone, tu te sens concerné. Enfin,
oui. Non, mais là en fait, je vous fais un reportage de Pennsylvanie, d'accord, devant le bureau de vote où nous sommes en train de déplier les derniers bulletins. Et oui, car radiofréquence par équipée de comment dire, n'étant aucune dépense, donc vous m'avez envoyé aux États-Unis, je vous remercie. Donc, alors, en Pennsylvanie, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, en Pennsylvanie, on en est à 97% de bulletins de vote dépouillés, et oui, et la tendance se confirme. Alors, il y a donc 6,6 millions d'habitants par ici, et 180, enfin, non, votants, pardon, et 180 000 bulletins restants à dépouiller. 180 000. Donc, écoutez bien. Sur les bulletins qui sont dépouillés, la tendance est de 75% en faveur de Biden. Mmh. Et Trump aujourd'hui, et Trump en nombre de bulletins dépouillés, n'a que 18 000 bulletins d'avance. Ce qui veut dire que c'est plié pour lui avant la fin de la journée. Ah. C'est pour la Pennsylvanie. Et ça, je pense que tous les calculs des journaux sont, comment dire, sont justes.
Mais quoi, comme ça, il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de fraude avérée. Moi qui dis... Moi,
j'écoute
Trump régulièrement.
Il s'agit uniquement, et ça, c'est avéré également, de bulletins qui sont arrivés par la poste et qui ont été mis de côté dans les conditions normales de vote et qui sont en train d'être dépouillés. Et c'est logique parce que ces bulletins-là, ce sont des gens qui ont voté Biden sans se déplacer. Biden a mis beaucoup plus... l'accent sur le vote par correspondance, puisque sa logique, lui, était de que les gens n'aillent pas voter en physique. Et donc, tout est normal. Et en fait, Trump a perdu la manche la partie, et le jeu 7 et match, dans la nuit électorale. Pendant la nuit électorale, quand il s'est rendu compte que ça allait être avantage général Biden, sauf dans quelques swing states, et qu'il n'allait pas tous les gagner... Et qu'après la victoire de la Floride et de l'Ohio, c'était tout ce qu'il allait engranger, en fait. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte que ça allait être très difficile, en demandant que le vote se poursuive dans le Michigan, d'arrêter le phénomène Pennsylvanie. Et il a hésité. Et il s'est déclaré vainqueur à contre-temps. Ça a fait un pétard mouillé. Et depuis, les votes se poursuivent. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que non seulement il va perdre, mais il va être humilié. Je vous explique, ce n'est pas en Pennsylvanie que ça va se jouer, puisqu'apparemment, c'est plié en faveur de Biden, c'est en Géorgie. Alors, la Géorgie, c'est magique. Il reste encore 1% de bulletins de vote à dépouiller, 5 000 bulletins, et ils viennent tous du même comté, du comté de Fulton, c'est-à-dire à Atlanta, où les gens ont un avantage écrasant pour Biden. Et Biden a d'ores et déjà, alors que 99% des bulletins sont décomptés, une avance de 1000 points, de 1000 voix qui ne peut que accélérer. La Géorgie est quasiment d'ores et déjà dans l'escarcelle de Biden, ce qui veut dire que le front du Sud est complètement explosé et que, en tout cas, en Géorgie, Black Lives Matter a fait un excellent travail de vote contre, de travail de propagande contre le vote suppression, c'est-à-dire la suppression des votes des Noirs. Et en fait, le comté de Fulton, devant le pays tout entier, est en train de tranquillement compter ses bulletins de vote dans son isoloir en disant « Vous inquiétez pas, on va tout compter, chaque vote sera compté. » Et ils sont en train de faire poireauter le pays entier avec 16 grands électeurs dans la besace. La Pennsylvanie, c'est 20. Et 16 grands électeurs, c'est tout ce que Biden… Non, Biden sait qu'il a gagné parce qu'en fait, le Nevada n'a pas encore rendu ses votes qui sont en sa faveur. C'est 6 votes. Il a besoin de 6 votes pour gagner. Donc là, il est en train de se faire le plaisir d'humilier Trump en lui arrachant la Géorgie et très probablement la Pennsylvanie. Et attendez, attendez, c'est magnifique. Je viens de me déplacer et que maintenant je suis en Caroline du Nord. Et donc je suis devant encore. Alors là, j'ai fait le tour de plusieurs comtés parce qu'en fait, il y a plein d'endroits où les votes ne sont pas encore décomptés. Il n'y a que 94% du vote qui a été décompté à ce jour. 330 000 bulletins. Sur la question des latinos, ouais, juste, donc il a une base chez les latinos conservateurs, catholiques et anticommunistes. Mmh. Et par ailleurs, la Floride est aussi un endroit où il y a énormément de vote suppression. Il y a eu toutes les élections. Donc, il y a eu, cette fois-ci, on peut dire que la Géorgie, ça n'a pas marché, mais la Floride, ça a bien marché. D'accord. Voilà les deux explications pour la Floride et le Texas.
Okay. Donc, juste pour préciser que les vote suppression, c'est bien le fait de ne pas voter pour une communauté, enfin de mettre
non,
des obstacles.
Le vote suppression, c'est le fait d'exclure les gens des listes électorales sur la base de leur quartier.
Absolument.
Et de leur passé délinquant. Voilà.
Voilà. Merci Jérôme pour cette explication sur les États-Unis. C'est très intéressant. Donc cette émission se termine. Merci vraiment à Claude qui l'a enregistré et monté. Merci à Gilles. Et,
merci à tous.
Merci à Christophe. À plus tard.
Ciao.
Ciao. I'm forced to admit that I'm too weak to quit, and I don't have the courage to make it alone. I'm too weak to get through.